La Lovecast, Lovecast présente. Mais non!
Les Black Locas présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Rien à signaler, une émission féministe que vous pouvez écouter un mercredi sur deux, de 20h à 21h sur Radio Dio. Donc ce soir, nous vous proposons le deuxième volet sur le thème de la prostitution et du travail du sexe. Vous avez peut-être écouté le premier volet qu'on avait fait le 16 décembre 2009 et que nous avions intitulé « Les effets du stigmate de pute ». Si vous l'avez raté, vous pouvez toujours nous le demander en écrivant à l'adresse rien à signaler sans accent tout attaché @herbefolle.org. Donc le 16 décembre dernier, nous avions donc cherché à décortiquer le discours politico-médiatique pour montrer comment les images de prostituées dont on nous matraque sont misérabilistes et entretiennent une stigmatisation des putes et des travailleuses du sexe plus généralement. Mais face à ce discours bien pensant, les travailleuses du sexe réagissent finalement en insistant sur le fait qu'elles ne sont pas des victimes et qu'elles peuvent tenir un discours sur elles-mêmes et leur travail qui n'a rien à voir avec un récit de descente aux enfers comme on peut l'entendre régulièrement. Donc pour faire apparaître leur discours, leur parole à elles dans le champ médiatique et le faire apparaître aussi sur la scène politique, pour faire entendre leur voix et démontrer leur volonté de se défaire des positions misérabilistes, donc les prostituées et travailleuses, travailleurs du sexe s'organisent et construisent une action collective et des luttes. Donc aujourd'hui, nous souhaitons faire un petit tour du côté de ces luttes, relayer les revendications des prostituées contre la répression, le stigmate et pour leur droit à exercer le travail du sexe, à ne pas avoir à se cacher, à disposer des mêmes avantages sociaux que tout le monde. Une question va aussi traverser l'émission. En quoi les luttes des prostituées croisent les luttes féministes ? Ça paraît assez clair comme ça dans la mesure où voilà, les luttes féministes et aussi des luttes pour les femmes. Et que les prostituées, ben, la plupart du temps, c'est des femmes ou alors des personnes assez minorisées, soit gays ou trans. Nous, en tant que féministes, on défend cette démarche d'autonomie, de libre disposition du corps aussi, qui est un leitmotiv féministe de « je dispose librement de mon corps ». Voilà. Et aussi, on peut ajouter que le stigmate de pute, il pèse finalement sur toutes les femmes. Donc pour creuser un petit peu cette question-là du stigmate de pute, je vous renvoie à Gail Feterson. Gail, c'est écrit G-A-I-L, et Feterson, P-H-E-T-E-R-S-O-N, qui est une féministe américaine qui travaille depuis les années 80-90 sur cette question de la prostitution et qui tient des positions à défendre les prostituées, leurs droits et aussi à montrer comment la problématique de la prostitution et du stigmate de pute, c'est une problématique qui concerne toutes les femmes et qui s'abat sur toutes les femmes, finalement. Voilà, je ne vais pas développer là parce que je n'ai pas le temps. Et de fait, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de féministes ne sont pas solidaires des luttes des prostituées. Nous, on avait envie de faire cette émission aujourd'hui parce que on est solidaires de ces luttes. Aussi en tant que féministe et sur pourquoi il y a certaines féministes qui sont pas solidaires, ben c'est aussi parce qu'elles tiennent des positions abolitionnistes, qu'elles parlent pas de prostitution mais en général de marchandisation du corps, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour elles, en fait, elles soutiennent une lutte pour l'abolition de la prostitution et ce qui est vraiment incompatible avec la revendication centrale des travailleuses du sexe d'une reconnaissance officielle de leur travail et d'une liberté d'exercer. Donc nous, on est plus ces positions de soutenir les revendications des prostituées. On va faire un petit tour du monde rapide, hein, pas du tout exhaustif de ces luttes. Aujourd'hui, Et en fait, de fait, si aujourd'hui il y a beaucoup de féministes qui sont abolitionnistes et qui soutiennent pas ces luttes, ben il y en a quand même... enfin ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, et notamment dans les années 70.
Donc je vous propose un petit retour en arrière, il y a à peu près 35 ans de ça. Le lundi 2 juin 1975, une centaine, enfin entre 100 et 150 travailleuses du sexe ont investi l'église Saint-Nizier, qui est dans le centre de Lyon. En fait, quelques jours avant, il y a une dizaine d'entre elles qui ont été condamnées à des peines de prison pour récidive de délit de racolage actif. Et d'autre part, il y a aussi des scandales qui avaient éclaté suite à la mise à jour d'arrangements existants entre des policiers et des proxénètes. Donc ce jour-là, elles déclarent qu'elles ne sortiront de l'église que quand ces peines seront levées. La politique de répression est dénoncée. La police leur impose régulièrement des PV pour attitude de nature à provoquer la débauche, selon l'article 34 du Code pénal. L'occupation va durer une semaine. Elle attire les médias locaux, nationaux. Elle est soutenue par des organisations politiques et syndicales. Le mouvement d'Unique est une association surtout catholique. Et, justement, des féministes à cette époque. Le 10 juin, à 5h du matin, donc une semaine plus tard, elles sont expulsées brutalement par la police qui en blessera gravement plusieurs d'entre elles. Le gouvernement n'aura pas du tout pris la peine d'accepter le dialogue exigé. Et cependant, quand même, on peut noter que non seulement ce mouvement aura été imité par d'autres travailleuses du sexe d'autres villes du pays, et la date reste gravée comme la première fois où les travailleuses du sexe rompent le silence, s'organisent pour dénoncer la terreur policière, interpeller le gouvernement et faire des revendications. On verra que cette date du 2 juin, elle reste importante pour d'autres travailleuses du sexe dans le monde, justement.
Alors, moi, je vais vous parler de ce qui se passe un peu plus localement. Enfin, ça a fait suite quand même à l'église de Saint-Nizier, c'était à Lyon. Mais plus récemment, là, il y a notamment une association qui s'appelle Caberia, qui existe depuis 1993, qui est une association de santé communautaire sur Lyon, qui fait de la prévention IST, VIH, de toxicomanie, et qui lutte contre les exclusions de manière... Enfin, voilà, c'est un peu général, ça. Mais du coup, déjà, l'association de santé communautaire, ça signifie que bah, y a une association avec des personnes qui sont concernées pour définir leurs besoins et pour mettre en place des objectifs pour réaliser des objectifs et aussi réaliser l'action qui concerne ces personnes. Et du coup, ici, c'est les personnes prostituées. Donc les associations de santé... Parce que Caberia, donc, c'est un peu spécifique, c'est une association de santé communautaire comme Griselidis, dont je vous parlerai après un petit peu. Et donc ces associations de santé communautaire, elles sont nées dans les années 90, dans un contexte de lutte contre le sida, avec l'arrivée du VIH, et vers la fin des années 80, et du coup ça marque vraiment un changement dans l'approche de la prostitution. Et du coup, parce que dans les années 60-80, enfin de 60 à 80, la lutte elle était beaucoup plus axée contre le proxénétisme en France, et ça a notamment pas mal marché. Et voilà, et du coup, cette association, pour être du coup communautaire, elle est constituée à parité entre des personnes prostituées et des personnes de santé, des chercheuses, et tout ça autant dans le conseil d'administration que dans l'équipe qui va sur le terrain, ou qui est là dans les locaux. Et du coup, voilà, il y a un accueil et des permanences dans les locaux de l'association. Donc qui sont à Lyon, et puis il y a aussi des sorties de nuit qui sont assurées avec des infirmiers, des infirmières et des animateurs, animatrices de prévention. Donc la première mission de Caberia, c'est un travail de santé, un travail de prévention et un travail de sensibilisation au MST, au VIH, aux hépatites, tout ça. Donc cette mission, elle a nécessité de développer un travail d'accompagnement social et juridique. Donc il y a pas mal de soutien à constituer des dossiers, à avoir accès au logement, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on a accès à des droits de base pour vivre normal, quoi. Et puis voilà, donc ça va dans le sens d'une lutte contre les exclusions. Il y a aussi une réflexion du coup qui s'est vraiment développée dans le sens des droits fondamentaux des personnes prostituées et puis un engagement réel à leur côté. Du coup, avant Kabiria, il n'y avait pas d'aide. Toutes les aides plutôt, elles étaient subventionnées dans le sens de la réinsertion parce que les prostituées, elles étaient vues comme des inadaptées sociales. Et du coup, il n'était pas du tout question de leur donner des préservatifs, par exemple, alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des missions, par exemple, de distribuer à fond des capotes, de soutenir les gens sur des trucs de santé. Et voilà, et elles accompagnent donc des travailleuses et des travailleurs du sexe dans leurs démarches, elles les accueillent. Il y a une ligne d'urgence 24 heures sur 24. Et il y a aussi une autre dimension dans l'association, c'est qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle le Dragon Lune, qui édite un rapport d'activité tous les ans. Et puis, depuis 2002, il y a eu la mise en place d'une université solidaire qui est conçue sur le même modèle que les universités populaires. Voilà, donc je vous invite à aller voir leur site qui s'appelle www.kaberia.asso.fr. Et voilà, je voulais vous parler vite fait aussi de ce qui était développé dans cette université solidaire qui s'adresse majoritairement aux personnes qui sont les plus exclues dans notre société. Et du coup, ce qui est mis en place, c'est des questions, pas mal de trucs autour de la santé, sur l'apprentissage et la maîtrise des langues, il y a un truc sur un peu de géographie, d'histoire sur la situation des pays, il y a de la science politique, du coup des débats autour de l'actualité, il y a tout un truc autour de l'administration. Du droit en fait, quels sont les droits des citoyens, tout ça. Et puis des ateliers autour du corps, des ateliers d'art plastique, des ateliers d'écriture, des ateliers de chant, des ateliers de danse, des ateliers d'informatique. Enfin, du coup, voilà, c'est vraiment une grande diversité d'actions dans cet asso qui se bouge vraiment beaucoup. Voilà, et elle est aussi à l'initiative régulièrement de rassemblements, de manifestations, qui sont souvent en lien avec des politiques municipales. Comme il y a à Lyon, il y a pas mal d'arrêtés municipaux assez pourris, et les lois répressives. Et donc, ils produisent aussi des communiqués de presse, des textes sur la répression, tout ça. Alors, en France, il y a d'autres associations qui ont le même type d'action, mais qui sont plus partielles ou qui fonctionnent pas exactement pareil, quoi. Et l'autre association qui est assez proche, c'est Griselidis, qui est aussi une association de santé communautaire, d'accès aux droits et à la santé, qui se trouve à Toulouse. Et voilà, on va bientôt s'entendre un petit extrait de ce qu'elle nous raconte. Et j'avais aussi envie de dire que du coup, Griselidis, c'est en référence et en hommage à Griselidis Réal, qui est une écrivaine et prostituée genevoise en Suisse, donc, qui a beaucoup milité, qui a fondé une association de défense des droits des prostituées, enfin avec d'autres, je crois. Et puis qui a, dans son appartement, créé un centre international de documentation sur la prostitution. Elle a fait des conférences et puis elle a écrit pas mal de livres. Voilà. Du coup, je vous propose d'écouter un petit montage vite fait, extrait de la putain de compile. Je vous en reparlerai plus tard. L'association Griselidis avec une des personnes qui participe et qui raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe ou comment elle se positionne, elle. Voilà.
L'association Griselidis, on bosse sur le territoire toulousain en matière de prostitution. On est une association communautaire, c'est-à-dire que dans l'équipe de salariés, certains et certaines comme moi sont embauchés pour les compétences de prostituées. Je ne suis pas toujours dans le militantisme, j'ai un peu toutes les casquettes. Il y a des personnes en fait que je ne vais pas embarquer comme ça là immédiatement. Dans une action militante, mais dans mon approche avec les personnes, elles savent qu'elles n'ont pas besoin de se justifier en disant je veux arrêter la prostitution pour obtenir une information, pour obtenir un contact avec quelqu'un qui puisse défendre, que ce soit l'accès à la santé, l'accès aux droits.
C'est le point de chute, c'est la base de l'association, parce qu'il n'y a que vraiment là qu'elles vont pouvoir aller pour se vider, ben pour parler, tout ça, parce qu'il y a les personnes adéquates et que dans la rue, elles ne vont pas être entendues comme là, quoi, comme à Griselidis.
Souvent, les personnes d'origine étrangère finissent par créer des liens avec les traditionnelles françaises qui, sur le terrain, ne sont pas toujours contentes après elles parce qu'il y a une histoire de concurrence, etc. Mais en général, ici, tout se passe bien et toutes les communautés se retrouvent réunies. Et voilà, on échange, on se redonne du courage, on s'auto-valorise. De temps en temps, il y a des clashs parce qu'on n'est pas d'accord et c'est normal, c'est bien, c'est la vie aussi. Et en fait, on communique, quoi. Voilà. On a souvent sur le dos certaines féministes abolitionnistes qui confondent le système prostitutionnel, le libéralisme, l'exploitation des êtres humains. Tout ça s'est mis dans un grand sac. Derrière le développement qu'elles ont lorsqu'elles dénoncent l'exploitation, la soumission de la femme à l'homme, au système masculin, pas à l'homme, mais au système masculin, etc. En fait, elles se démerdent bien parce qu'elles ne côtoient jamais les prostituées en tant qu'êtres humains. Voilà, en tant qu'individus, elles viennent pas nous parler. Donc moi, en fait, je savais pas ce que c'était que cette espèce de féministe. Si je les avais rencontrées trop tôt, pendant mon activité, en fait, j'aurais été terrifiée parce que je me serais dit, ma pauvre vieille, t'es toute seule, quoi. Je croyais que quand on parlait dans les médias, dans les journaux, quand on parlait des droits de la femme, je me sentais inclue en tant que prostituée. Et puis j'étais vachement fière. J'avais réussi à tapiner sans proxénète, sans me foutre dans des systèmes à la con. Donc pour moi, c'était aussi significatif de ma propre valeur. En fait, on ne peut pas parler de nous sans parler d'exploitation. Et ça, ça veut dire qu'en fait, que j'ai bossé avec ou sans proxénète, c'est du pareil au même. Ça veut dire que j'ai bossé pour rien. Donc cette non-reconnaissance, enfin, ça commence à être lourd. Par contre, là où on aurait des points communs, c'est sur la prostitution forcée. Quelqu'un comme moi, je suis vraiment, je suis très à prendre avec le proxénétisme. Sauf que les gens qui dénoncent l'exploitation, et qui dénoncent en même temps, dans le même sac, qui mettent l'exploitation et la prostitution, le système prostitutionnel, je ne les vois pas beaucoup agir pour lutter contre le proxénétisme en même temps. Parce que par contre, là, on aurait un point commun. D'abord de travailler peut-être en interne et puis au bout d'un moment eh ben, d'avancer en rang serré et puis qu'on prenne qui pourra comprendre et ceux qui ne comprendront pas, ils se mêleront de ceux qui savent. Nous, on sait de quoi on parle. On ne peut pas attendre que tout le monde soit d'accord. À chaque fois, en plus, ça soulève des passions. Chacun y met de son fantasme, de son imaginaire. On nous fait basculer dans l'émotionnel et c'est pas le genre de débat qu'on peut mener dans l'émotionnel. Il faut rester calme et il faut mener des débats pragmatiques et politiques.
Oui, voilà. Alors donc c'était une des personnes qui travaille à Griselidis, pardon, à l'association de santé communautaire à Toulouse. Et donc pour continuer, moi je vais vous parler de revenir à ce que tu racontais tout à l'heure, Lucie, sur l'idée et souvent le slogan qui motive en fait les luttes contre la prostitution, qui donc dit souvent non à la marchandisation des corps. Donc j'avais envie de vous lire un petit extrait de Porno Manifesto, qui est un bouquin écrit par Ovidie, voilà, qui est une actrice porno très culte, qui est aussi réalisatrice, tout ça, qui a fait pas mal de choses. Donc je vais vous lire ça. Alors, combattre la marchandisation du corps, c'est combattre le fait de recevoir le corps comme une marchandise. On peut déjà s'amuser de l'expression « vendre son corps ». Littéralement, vendre son corps, ce pourrait être vendre des parties de son corps. On vend un rein, un bout de foie, on fait du trafic d'organes. En restant dans le domaine du tolérable, on peut vendre ses cheveux au coiffeur pour qu'il en fasse des perruques. On vend une partie de son corps biologique. Combattre la marchandisation du corps, est-ce combattre la mise en vente d'une partie de notre organisme ? Non. C'est combattre la mise en vente d'une activité de notre corps, donc d'un service. Combattre la marchandisation du corps, c'est combattre le principe d'être rémunéré pour un service. Et alors, un peu plus loin, elle continue. On condamne l'actrice porno qui aura une activité sexuelle dans un public, devant un public contre de l'argent, alors qu'on ne pensait pas une seconde à condamner la femme qui fera une autre prestation rémunérée dans un tout autre... Winnie ? Ah oui, pardon. Excusez-moi, un petit souci technique. La femme qui fera une autre prestation rémunérée dans un tout autre type de spectacle à caractère non sexuel. L'actrice porno vend plus son corps que la danseuse. Pourquoi ? Parce qu'il existe toujours cette idée puritaine du don de soi par l'activité sexuelle. On offre son corps à chaque rapport sexuel. On en revient à cette conception de l'acte sexuel où le pénétré est dominé. Le pénétrant prend possession du corps du pénétré. Il a la propriété du corps qu'il pénètre. Celui qui paie pour pénétrer, par la bouche, le vagin ou l'anus, s'achète un corps qui deviendra sa propriété. Le corps est vendu, c'est la marchandisation du corps. Sauf que la conception du pénétrant propriétaire du corps qu'il pénètre est une idée phallocrate qu'il faut détruire. C'est le fondement de ce qu'on appelle communément machisme ou autre domination masculine. Donc un petit extrait de Porno Manifesto, donc qui est en fait écrit par Ovidie, donc qui est travailleuse du sexe en tant qu'actrice et réalisatrice porno, donc qui n'est pas prostituée, mais du coup qui a une autre forme d'activité dans le domaine du sexe. Et voilà, donc simplement pour redire un peu ce qu'elle explique là, c'est que c'est l'idée qu'il n'y a pas de vente du corps, mais d'un service dans le travail du sexe, et qu'il y a toutes sortes de métiers où on vend des services, des prestations, où le corps il est utilisé comme un outil, et il n'est pas question à ce moment-là de marchandisation du corps. Qu'on peut peut-être essayer de penser ça un peu différemment, ça se passe dans toute la société. Je sais plus c'est quoi la suite, de quoi on vous parle.
Ensuite, on fait un petit interlude musical d'une petite minute, afin que vous ayez une petite pause. Donc maintenant, par rapport donc à ce que tu disais contre la marchandisation du sexe, etc., ça fait partie donc des revendications qui sont portées par les travailleuses du sexe aujourd'hui. Donc parler de marchandisation du corps, c'est rester kéblo sur un espèce de rapport au corps assez mystifié ou quoi. Et donc c'est une des choses qui est dénoncée par les travailleuses du sexe. Comme Ovidie ou comme les autres, qui sont depuis un an organisées dans un syndicat, en tout cas 300 d'entre elles en France aujourd'hui. Ce syndicat, c'est le STRAS, qui s'écrit comme STRAS et paillettes, qui veut dire syndicat du travail sexuel. Donc, qui a été créé il y a un an au cours des assises de la prostitution. C'était autour du 20 mars, qui est la date d'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité intérieure, qui condamne le racolage passif. Donc, cette loi, on vous en avait parlé la dernière fois, c'est un des... La suppression de cette loi est une revendication qui est vraiment primordiale aujourd'hui pour les associations et pour ce syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, ce syndicat, il a été créé, donc je vous l'ai dit juste avant, au cours des assises de la prostitution qui ont eu lieu l'année dernière.
Et alors, qu'est-ce que c'est ? L'office de la prostitution.
Alors, vous demandez, hein. Ouais. Attention, suspense. Donc, les assises de la prostitution existent depuis environ 3 ans. Il me semble que les premières s'étaient tenues il y a 3 ans. L'idée, c'était que les prostituées travailleuses du sexe, avec ce qu'on appelle les lologues, qui sont psychologues, sociologues, sexologues, etc., et autres juristes ou alliés finalement, se retrouvent pour avoir une parole, ensemble déjà, se rencontrer et se soutenir et casser aussi le tabou parce que pas être seul parce que c'est important de s'organiser surtout face à une répression aussi forte ou à un stigmate aussi présent dans la société. Et donc l'idée c'était de poser une parole publique collective et avoir des débats, des informations ensemble etc. Donc ça, c'est un peu les assises.
Est-ce que tu sais si c'est que des prostituées ou un ensemble de travailleuses du sexe qui peuvent participer
Aux assises, en fait, enfin, moi, j'y suis allée l'année dernière, et du coup, il y avait donc des prostituées, mais pas que. Il y avait des actrices porno, il y avait, enfin, en fait, dans la catégorie travailleuse du sexe, il y a vraiment un espèce de large panel comme ça, qui est pas forcément hyper identifié, mais voilà, ça peut aller de la gogo danseuse à la stripteaseuse, à la vendeuse de sex shop, à la prostituée ou à l'escorte.
Et alors cette année, il y a un truc spécial. Enfin, ça a lieu encore dans pas longtemps. Mais du coup, il y a une histoire de Sénat, tout ça. C'est quand même. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ouais. surprise ou ça m'a questionnée. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que d'être invité dans des locaux comme ça ? Ça pose des questions.
Ben ouais, cette année, ça sera du coup au Sénat parce que il y a une sénatrice, je crois, qui fait partie des Verts. Parce que les Verts, c'est un peu. Un peu là-dedans, je sais pas pourquoi, mais bon. Et du coup, une sénatrice qui peut permettre d'inviter donc à ce qu'il y ait les assises de la prostitution qui se tiennent là où l'année dernière, c'était au Théâtre de l'Odéon à Paris, parce que le directeur du Théâtre de l'Odéon avait, pareil, face à des personnes qui souhaitaient organiser ces assises, avait dit « Ok, moi je veux bien mettre à disposition le Théâtre de l'Odéon ». Et donc là, cette année, c'est le Sénat. Du coup, ça fait un nombre de places hyper limité. Mais ça sera le 24 mars 2010. Et en fait, là, j'ai le petit fly sous les yeux. Et cette année, c'est juste sur une journée. Je sais pas, l'année dernière, il y avait la pute Pride le lendemain. Mais là, cette année, je sais pas si ça va avoir lieu. Mais le but des assises, cette année, ce qui est écrit sur les petits fly, c'est le lancement d'une campagne de prévention en direction des clients. Donc que les clients se protègent, etc., et ne demandent pas sans cesse des pratiques non protégées, qui payeraient plus cher, parce que ça se fait aussi pas mal. Donc c'est demander le bilan annuel de la loi sur le racolage prévu dans la loi de 2003, donc la loi sur la sécurité intérieure, et qui a encore jamais été établie. Et c'est demander aux sénateurs et sénatrices un bilan de la loi sur le racolage avec consultation des travailleuses du sexe et des associations. Les associations, dont il y a les associations de santé communautaire dont tu nous as parlé tout à l'heure, donc comme Kabiria, Griselidis. Il y en a aussi une à Lille d'associations de santé communautaire qui s'appelle Entracte et une à Marseille qui s'appelle Autre Regard. Il y a Aspasie, l'association qui a été créée par Griselidis Réal et qui est donc à Genève. Et il y a des collectifs, donc l'ami du bus des femmes qui a été créé aussi dans les années 60, dans les années 90, pour faire de la prévention et pour soutenir de la réduction des risques et soutenir les prostituées dans la rue qui bossent à Paris. Et il y a aussi le collectif Femmes de droit, droit des femmes, donc plus sur des questions juridique et donc le collectif Droit et Prostitution qui est un collectif aussi avec des féministes voilà qui soutiennent tout ça et qui sont en lien finalement avec le STRAS.
Ouais, moi j'avais juste envie de rajouter un truc que j'ai oublié tout à l'heure parce que j'avais envie quand je parlais de Kabiria en fait je voulais vous parler d'un truc et tu parlais de des clients de sensibilisation autour des clients et du coup il y a une initiative que je trouve assez chouette qui a été faite par, Kabiria de rééditer en fait un petit guide qui s'appelle Travail du sexe de rue, cher client, qui est en fait une petite brochure qui s'adresse aux clients, qui répond à plein de questions assez banales que peuvent se poser plein de gens et puis qui propose un peu une prise en compte des travailleuses du sexe et puis une politique de prévention quoi. Mmh. Voilà, et un autre truc aussi du coup j'en profite, je rajoute qu'elles ont édité aussi une démarche qui est pas je pense pas commune, c'est un petit guide d'usage à destination des femmes migrantes et qui est une brochure aussi qui soutient en fait les femmes dans leur démarche et qui les soutient aussi pour résister au quotidien face à des violences, face à des situations pourries, tout ça.
Oui, enfin, les associations, elles bossent aussi pas mal avec notamment des femmes sans papier, y compris qui sont hyper présentées comme les victimes, tout ça, à la télé, machin, des réseaux mafieux et tout. Et du coup, Du coup, voilà, là, c'est plus dire, ben, on va apporter des solutions concrètes et pragmatiques et arrêter de dénoncer la prostitution qui, de toute façon, existe. Mmh. Oui, et puis, donc, le but du STRAS, quand même, je vais en parler un petit peu plus, c'est du syndicat de travail sexuel. Donc, c'est beaucoup une action autour de la loi sur la sécurité intérieure et donc pour l'abrogation de cette loi. Et notamment de l'article qui condamne le racolage passif et donc qui justifie d'une répression énorme sur les prostituées. Et donc c'est aussi poser une parole des personnes concernées dans les débats sur la réouverture des maisons closes ou sur la dépénalisation, et, voilà, etc. Et en fait, le STRAS, il a été créé dans la dynamique qui a été lancée par la Déclaration des droits des travailleuses du sexe en Europe. Cette déclaration, elle avait été élaborée à la Conférence européenne du travail sexuel, des droits de l'homme, de la femme, du travail et de l'immigration. Et voilà. Et aussi, quand même, je voulais rajouter juste une petite minute que donc dans les luttes portées par le STRAS, il y a aussi assez fort une lutte contre le proxénétisme, l'esclavage, le trafic d'êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants. Mais justement, en apportant des solutions autres, en fait, comme de réfléchir à des coopératives, à réfléchir à des soutiens, à réfléchir à une vraie organisation entre les personnes et pour arrêter avec ce tabou-là et à tout mettre dans le même sac.
Ouais, et puis avec la répression policière qui fait généralement que empirer les situations des personnes qui subissent réellement des pressions à se prostituer ou qui sont prostituées ou des enfants.
Ouais. Voilà.
Ok, on va faire un petit saut de l'autre côté de l'Atlantique, puisque on avait un petit extrait qui nous y appelait, avec une association qui s'appelle AMAR, A2MAR, qui est une association des femmes prostituées d'Argentine, c'est ça que ça traduit, qui a été créée en 1994 et pour changer, pour faire face aux constantes violences policières. Donc c'est en 94 et quelques mois plus tard après la création de l'association, elles rejoignent le syndicat, le CTA, qui est la centrale des travailleurs d'Argentine, donc qui est le plus gros syndicat de gauche ouvrier à la base en Argentine. Et ce qu'elles disent dans leur présentation, c'est ce qui nous a permis de connaître d'autres réalités et nous a fait abandonner l'auto-marginalisation, nous reconnaissant nous-mêmes comme des travailleuses. Donc là, elles se réapproprient aussi le terme de travailleuse et de travailleuse du sexe. En 2002, elles créent leur propre syndicat, qui est le syndicat des travailleuses du sexe d'Argentine, en lutte pour leurs droits. Et elles mettent en place, quelques temps plus tard, Red Trasex, donc c'est le réseau des travailleuses du sexe d'Amérique latine. Donc il les met en relation avec d'autres organisations dans plus de 10 pays du continent, jusqu'à l'Amérique centrale et au Mexique. Il faut dire qu'elles sont, elles ont comme date justement de travailleuses du sexe, de lutte des travailleuses du sexe, le 2 juin 75, donc ce qui s'est passé à Saint-Nizier, à Lyon. Et donc elles luttent en grosse partie pour leurs droits et pour arrêter toutes les violences policières qu'il y a et qui sont vraiment graves, qui vont souvent jusqu'au meurtre là-bas. Voilà, on peut noter que le 27 janvier 2004, donc il y a 6 ans, une militante de AMAR et du CTA, qui s'appelle Sandra Cabrera, a été assassinée dans la ville Rosario où elle travaillait et où elle militait. Elle avait dénoncé quelques temps avant la traite des enfants et la traite des personnes qui est maniée par la police là-bas. Elle avait donné des noms de policiers et 2 jours avant qu'elle soit tuée, elle avait porté plainte contre un policier qui soutirait de l'argent à une camarade. Bien sûr, on est en 2010, 6 ans plus tard, l'enquête n'a toujours rien donné. Et voilà, donc on peut voir qu'être prostituée et en plus militer pour ses droits, il y a des endroits où ça peut être vraiment très dangereux. On reste en Amérique latine, on part au Mexique. Je vais vous proposer de lire un texte que j'ai compilé, où j'ai compilé des extraits d'une réunion qui se passe à Apizaco, dans une petite ville du Mexique, qui se passe entre plusieurs travailleuses du sexe et un représentant de l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, et pour ne pas le nommer, qui s'appelle le sous-commandant insurgé Marcos. Donc j'ai compilé ces extraits et traduit, où on verra que les travailleuses du sexe posent déjà le contexte, leur quotidien, la nécessité de rejoindre la lutte, et enfin elles font une déclaration commune entre zapatistes et travailleuses du sexe. Tout ça se déroule dans le local où elles travaillent. Et je vais vous donner quelques petites précisions pour comprendre ce texte, parce qu'il y a quelques petites choses qui seront pas faciles de comprendre sinon. À un moment dans le texte, on va évoquer les maquilas ou maquiladoras, qui sont des fabriques de produits destinés à l'export. C'est des zones de non-droit où souvent il n'y a aucun respect des lois sur le travail. Il y a une totale exonération des charges pour les patrons, évidemment. Et généralement, ça se trouve à la frontière avec les USA, et ça fait qu'il n'y a aucune possibilité de faire valoir aucun droit. Dans ces endroits, on va parler dans le texte d'un salaire de 320 pesos par mois, ce qui correspond à 23 euros par mois, et ce qui ne correspond pas du tout d'ailleurs au salaire minimum que d'autres travailleurs peuvent toucher au Mexique. Dans ce même texte, on va évoquer le nom de Carlos Slim, qui est un entrepreneur de l'immobilier, genre le plus important du pays, qui possède une grande partie des opérateurs de téléphonie du continent latino-américain et qui nous rappelle bien un certain monsieur Bouygues. Et face à ça, on va parler de l'autre campagne, la otra campaña, et ça, c'est face à des élections présidentielles complètement truquées et aux mascarades de campagne présidentielle, le peuple indigène qui est investi dans la lutte zapatiste et avec l'EZLN propose l'autre campagne, donc contre la campagne présidentielle, où on propose justement aucun président, aucun maire, aucun gouverneur, seul le peuple y adhère, et pour avoir plus d'infos là-dessus, on peut aller voir sur internet, sur enlace-zapatista.ezln.org.mx. Et on lit ce petit texte, donc on est à Apizaco en 2006, et voilà, la réunion entre travailleuses du sexe et le sous-commandant insurgé Marcos. C'est une chose de lutter pour changer le système, et c'en est une autre de lutter pour nos droits. L'important étant qu'on arrête de nous traiter comme des délinquantes. Et encore, je crois qu'ils les traitent mieux que nous. Quand a-t-on vu un criminel, je parle des grands, les narcotrafiquants, attrapé par les cheveux, traîné, aspergé au jet d'eau froide? Ou bien qu'on lui enlève ses habits, en l'insultant, en se moquant devant son corps nu? Parce que c'est bien ça qu'ils nous font. Pas à eux, hein. Jamais.
Nous avons déposé une plainte devant la Commission nationale des droits de l'homme, sans qu'on nous donne de réponse positive. Que devons-nous faire? Ils sont venus nous dire, pardon, de retirer les charges contre le maire, et qu'ils ne nous feraient rien. Ils ont dit qu'on n'avait pas de preuves. Alors, on leur en a amené. Et on a vu une représentation de la commission qui nous a proposé de trouver un accord parce qu'elle pensait que ça devenait pire pour nous. On pense que le CDHDN, nous a trahis. Et si ça reste comme ça, les agressions vont continuer et nous ne pourrons plus rien faire.
Elles ont besoin de travailler dans un endroit digne. Moi, je tenais un bar, il a été fermé par les autorités, sans raison. Le maire refuse de me recevoir. Ici, tous les bars sont restés ouverts. Ils n'ont fermé que le mien, précisément parce que je suis solidaire des travailleuses du sexe.
Tout ça, les gens s'en foutent, puisque l'idée qu'ils se font des travailleuses du sexe, c'est ce qu'on peut voir dans les films. Mais nous sommes d'accord pour dire que nous ne sommes pas des prostituées. Les prostituées, ce sont ceux d'en haut, les riches, qui vendent leur dignité. Nous sommes des travailleuses. C'est comme ça que nous pensons, et c'est comme ça que nous avons notre dignité. Personne ne veut nous écouter, ou bien on nous dit, il y a d'autres travails. Justement, on leur a demandé aux autres travailleurs comment ça va. On n'invente rien. 320 pesos à la maquila, 10 pesos par jour, même pas de quoi payer une boisson et un pain. Il faudrait passer de l'autre côté. Ça veut dire laisser ta famille, tout. Ce n'est pas possible.
Nous comprenons ça très bien. Nous, comme indigènes dans la rue, on nous lançait des sales indiens. Comme une insulte, non? Exactement comme ils disent, sale pute, comme une insulte. Et nous avons récupéré notre dignité en luttant, comme vous êtes en train de le faire dans votre organisation. Nous voulons appeler les camarades travailleuses du sexe et leur dire qu'elles nous rejoignent. Parlez-nous, comptez-nous vos luttes. Racontez les méfaits des autorités, que ça se sache. Parce que maintenant, on va parler bien clairement et les gens vont comparer. Là, c'est ce que disent les travailleuses du sexe et là, c'est ce que dit le gouvernement avec Carlos Slim, cet entrepreneur qui a pour habitude de violer les gamines. Des gamines. Alors, on verra bien, il y a de la dignité chez les travailleuses du sexe et pas chez ce sale gouvernement. C'est ça qui vont voir les gens.
Nous sommes toutes dépréciées, humiliées et exploitées par le capitalisme. Ya basta, on ne se laissera pas faire. Unissons-nous, indigènes, travailleuses du sexe, travailleuses des maquilladoras, les ouvriers, les étudiants et les anciens, tous et toutes dans l'autre campagne. Nous ne voulons pas être président ou gouverneur ou maire, nous voulons être camarades, égales, dans la même lutte, avec les mêmes droits et diverses revendications.
En tant que ZLN et que travailleuses du sexe, nous faisons cet appel à toutes les travailleuses du sexe du Mexique pour se battre pour nos droits et pour changer le système capitaliste et ses gouvernements malfaisants qui nous oppriment. Ça donne un peu envie de dire que s'il y avait d'autres personnes aussi investies dans la lutte avec les travailleuses du sexe que le peuvent l'être le ZLN et les travailleurs d'Argentine, eh ben, peut-être qu'on n'en serait pas là.
Oui. Bon, ben, sans transition, une petite transition. Donc, on va vous passer un morceau qu'on passerait pas forcément habituellement, parce que c'est un morceau de NoFX. Mais c'est un morceau qui parle, en fait, d'une actrice porno, et du coup, qui
dit... Là, j'avais envie de dire que c'était pas parce que c'était NoFX, c'est parce que c'est des garçons.
Quand même de préciser.
Vas-y, continue.
Ouais, c'est pour ça. Et du coup, voilà, ça parle d'une meuf qui est actrice porno et il y a un gars qui veut la sauver et tout ça. Et elle dit, ben non, tu me sauves pas. Donc, je vais vous lire les paroles. Ça s'appelle Laurie Meyers. Et donc, les paroles, c'est Laurie Meyers vivait au-dessus. Nos parents ont été amis pendant des années. Presque chaque après-midi, on jouait à des jeux interdits. À 9 ans, de telles choses n'existent pas. La honte, par exemple. Ce n'était pas son visage que j'ai reconnu, qui m'a fait me souvenir. Ce qui m'a fait me souvenir était une marque familière qui a crevé l'écran. J'ai acheté des magazines, quelques scènes sur VHS. Acte incriminant, j'ai senti que je pouvais la sauver. Là, on passe à la voix féminine. T'es qui, toi, pour me dire comment vivre? Tu penses que je vends mon corps? Je vends simplement mon temps. Je ne suis pas une Cendrillon. Je n'attends aucun prince pour me sauver. En fait, jusqu'à maintenant, ça allait bien. Je sais à quoi ressemble la dégradation. Je l'ai ressenti sur le sol de l'usine, où je travaillais il y a longtemps. J'ai repris le contrôle. Maintenant, je ne réponds qu'à moi-même. Les 50 000 $ que je vais me faire cette année iront où je voudrais. Où est le problème? Bon, je voulais faire quand même une petite dédicace à Sarah et Elsa pour cette chanson.
Alors, vous êtes toujours sur les 89.5 de Radio Dio, dans l'émission Rien à signaler. Et ce soir, on vous parle des luttes des prostituées. Et alors, cette fois-ci, on va encore changer de continent. Et moi, je vais vous parler d'une association... Enfin, je ne sais pas si c'est une association. En tout cas, c'est un mouvement assez fou en Inde qui s'appelle le Durbar Mahila Samanwaya Committees. Donc, je prononce très mal. Ce qui veut dire le comité social des femmes irrésistibles. Et donc, c'est la plus grande association de travailleuses du sexe au monde. Elle est fondée en 1995 et elle est basée à Kolkata. Donc, Kolkata, c'est Calcutta. Ça fait quelques années que les Indiens se sont réappropriés le nom comme ils le prononçaient. Et donc, voilà, il y a le Saganashi Project. Donc, c'est un projet de prévention VIH-SIDA qui a débuté en 1992. Et duquel est née, en fait, cette association. Enfin, ce n'était pas une association, c'est vraiment un mouvement, parce qu'on ne peut pas traduire nos organisations françaises aux Indiens. Mais donc, c'est assez fou, il y a une aile culturelle, il y a une coopérative bancaire, il y a des écoles, des cliniques. Et tout ça, c'est basé sur une forme de consultation, un grand esprit d'empowerment, donc la réappropriation de son propre pouvoir, et puis de l'entraide. Donc, en 97, il y a Kabériak qui avait édité une brochure du Manifeste des travailleuses du sexe de Calcutta, donc, qui correspond au manifeste qu'a écrit ce mouvement. Donc, je vous redis le nom, maintenant je le redirai tout à l'heure, qui est donc disponible sur donc, le manifeste, sur les bonnes tables de presse que vous pouvez trouver dans vos déambulations nocturnes. Et puis, à Kabériak, je pense. Ou sinon, je crois qu'elle est sur infocus.net. Je n'ai même pas vérifié.
Non,
en fait.
Je ne crois pas qu'elle y soit. Mais sinon, vous pouvez aussi nous la demander.
Voilà.
Quoi.
Donc, rien à signaler, @herbefolle@pluriel.org. Voilà. Et donc, j'allais dire du bien d'infokiosque.net, mais je ne vais pas le faire, du coup.
Quand même.
Voilà. Bon, bah, vous allez. Non, mais il y a plein de trucs hyper bien là-dessus. Où, voilà, il y a plein de lectures, quoi. Et donc, moi, pour vous parler de ce mouvement, je voulais. Cet énorme mouvement de travailleuses du sexe indien, j'avais choisi de vous lire plutôt la présentation qui a été faite de ce mouvement durant le forum XXX en 2005, qui a eu lieu au Canada, qui était un grand forum de rassemblement de mouvements de prostituées qui luttaient pour la reconnaissance des droits. Et donc, voilà, je vais vous lire ce truc-là, parce que c'est mieux que moi, je vous fasse un petit résumé, alors que je ne connais pas trop. Enfin, alors, donc, le Durbar Mahila Samanwaya Committees est un forum réunissant 65 000 travailleuses du sexe à Kolkata. Notre groupe inclut des femmes, des hommes et des irjas, donc je pense que c'est les transsexuels. Le DMSC lutte pour obtenir des normes juridiques qui puissent protéger les droits des travailleuses du sexe et de leurs enfants. Nous militons pour la décriminalisation du travail du sexe adulte. Nous exigeons que le travail du sexe soit reconnu au même titre que tout autre travail. Nous luttons contre la stigmatisation et la criminalisation associées au travail du sexe. Nous ne voulons pas être considérées comme des victimes, mais des intervenantes tout à fait capables de réaliser avec succès des projets en vue d'améliorer leur propre vie. Un parfait exemple de cela est le projet Sanagashi d'intervention HIV SIDA qui s'est passé en 1999 sous le contrôle des organisations pour les droits des travailleuses du sexe. Le projet avait jusque-là alors été dirigé par un institut de recherche gouvernementale. Un autre exemple est notre création d'une caisse d'épargne et de crédit pour travailleuses du sexe. Nous rêvons d'un monde plus juste où les communautés marginalisées pourraient vivre en harmonie et dans l'égalité, le respect et la dignité. Nous espérons vivre dans une société sans discrimination fondée sur la race, la caste, le clan, les croyances, la religion, le sexe ou l'occupation. Une société dans laquelle tous les citoyens du monde pourraient vivre en paix. Donc voilà, je vous disais que cette intervention de cette association indienne, donc qu'elle explique au début, là, qui regroupe 65 000 travailleuses du sexe, donc c'est énorme. Après, l'Inde, c'est un gros pays, mais quand même. ouais, c'est fou, quoi. Et donc, elles étaient venues à ce festival-là que je te racontais au XXX. au Canada pendant 4 jours. C'était une fête en 2005 où il y avait plus de 200 travailleuses du sexe et militantes venues du coin de 4 coins du monde vers Montréal pour célébrer donc, le mouvement international du droit des travailleuses du sexe et le 10e anniversaire de Stella, dont je vais vous parler un petit peu après. Donc voilà, elles s'étaient réunies pour se mobiliser et se rassembler pour faire émerger les revendications et les droits à décriminaliser la prostitution. Donc il y a vraiment une dimension internationale dans ce forum qui est présente dans pas mal de mouvements et de revendications des droits des prostituées, femmes, trans, travestis et hommes. Et c'est un truc, moi, en faisant plein de recherches, en me baladant sur plein de trucs, c'est quelque chose qui est revenu et que j'ai trouvé assez chouette et marquant. Et ce qui était intéressant là dans cette histoire, je vous ai parlé tout à l'heure d'un documentaire issu de comment ça s'appelle, j'ai oublié, la putain de compile, donc qui a été édité par, enfin qui a été monté par les Panthères Roses au Québec et qui a été soutenu par Stella aussi. Et du coup, à part au Canada, c'est difficile de se le trouver, mais bon, vous pouvez toujours nous contacter, on l'a aussi. Et elle a circulé en France, voilà. Et c'est une compile qui parle un peu de tout plein de mouvements, tout ça qu'il y a dans le monde, et de plein d'autres trucs. Et donc, dans la conférence, justement, on apprend qu'il y a la décriminalisation de la prostitution en Nouvelle-Zélande, qui doit être un des rares pays au monde à avoir fait ça. Voilà. Et donc, ce forum, c'était aussi l'occasion de constituer une alliance, de l'alimenter et de faire un réseau d'organisations un peu sur tous les continents. Du coup, voilà, ça, c'est à l'initiative en partie de Stella. Et donc, je vous invite aussi à aller sur leur site parce que elles expliquent plein de trucs qui ne ressemblent pas à comment ça fonctionne en France. Du coup, c'est plus facile de comprendre en lisant leur site, je trouve. Donc, c'est www.chezstella.org. Et donc, c'est une organisation qui a 15 ans, qui est donc au Québec, qui a été créée en 1995 par des travailleuses du sexe et des universitaires de la santé publique, on peut dire, et des sympathisantes. Elle lutte, elle aussi, pour la décriminalisation des différentes formes de travail du sexe. Et elle travaille dans le sens d'une prise en compte et de la reconnaissance des travailleuses du sexe. Elles ont un local, elles mènent des actions de soutien. C'est beaucoup une association d'émergence de paroles politiques. Et elle tente de permettre des bonnes conditions de travail et de santé aux travailleuses du sexe. Et donc, elles font des actions dans la rue, dans plein de lieux, dans des bars et vraiment plein d'autres endroits. Stella, elle est aussi née comme plein d'autres mouvements dans le contexte de l'épidémie du VIH et du SIDA, et comme aussi d'autres regroupements de travailleuses du sexe dans le monde, même comme le mouvement indien. Et voilà, et donc c'est aussi les travailleuses du sexe qui sont actrices de la prévention. Et surtout, oui. Mais ouais. Et aussi, c'est une organisation qui est assez grosse et qui se mesure aussi avec le fait qu'elles ont une douzaine de salariés, au-delà de leur tonne de membres. Voilà, c'est une organisation qui a un gros fonctionnement interne. Voilà, et qui arrive à fédérer plein de trucs. Et à l'intérieur de ça, elle est rattachée aussi à un collectif militant affiché comme tel, qui s'appelle la Coalition, et du coup, Coalition pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe, qui réagit à ce qui se dit dans les médias, à ce qui se passe dans la rue, et qui organise des tonnes d'actions publiques et des événements comme des gros festivals avec plein d'ateliers. Enfin, voilà, c'est hyper vivant et super, super fou. Voilà.
Moi, je voudrais juste rajouter que, en France, tu as donné l'adresse des adresses internet, donc je voulais quand même donner l'adresse du STRAS, donc qui est strassyndicat.org. Et c'est pareil dessus, c'est possible de trouver des réactions, enfin des communiqués de presse, etc. Par rapport à ce qui peut se dire dans les médias ou dans la scène politique ou et à des réactions comme ça. Et donc c'est une prise de parole qui est plus intéressante que ce que vous pouvez trouver ailleurs, je pense.
Et quand même, on peut aussi dire qu'on n'avait pas assez de temps pour faire un vrai tour et qu'on a un peu omis plein d'autres mouvements et d'autres luttes dans plein d'autres endroits et qui nous a aussi permis de vous dire là que c'est pas du tout une lutte isolée, que c'est des personnes qui sont vraiment en lien tous et toutes ensemble et qui travaillent ensemble depuis un moment déjà.
Ouais.
Et voilà, on est même à l'heure et tout, c'est génial. Oh,
presque.
Je vais vous passer un petit morceau de musique en partant et vous dire qu'on va se retrouver dans 15 jours à la même heure, 20h, 21h. Rien à signaler.
Pour la diffusion du deuxième volet des monologues de ma touche, les monologues radiophoniques. Voilà. Dans 15 jours.
Ciao. Faut qu'on chante. T'as qu'à couper nos micros.
Get my voice back again. I knew.